Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 23 juillet 2011. Nos programmes pour cet après-midi à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Jano Dead et à 17h FMR, c'est l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici la non-rediffusion que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Je l'adore cette gosse, mais il faut bien admettre que c'est une vraie anarchiste. Elle nous réveille quand ça lui chante, elle est persuadée que déborder d'énergie à 7h du matin est une qualité. Parfois, elle se met à hurler sans raison, elle change d'avis toutes les 2 secondes à propos de ce qu'elle aime manger, elle fourre ses menottes, voire sa figure dans des endroits franchement dégoûtants, et on en a encore pour 14 ans comme ça au bas mot, du moins si on a la chance qu'une fac pas trop chère pour nous veuille bien nous la prendre en fait.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks, avec du sport, Ultimatum, Daspritch et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, bonjour à tous. Oui, en fait c'est vrai que l'extrait semblait un peu lu puisque du sport lisait un extrait de... Je m'en souviens plus.
De Moonlight Mile.
Oui, exact, oui. Pour l'art contemporain.
De Dennis Lehane.
Voilà, le dernier Dennis Lehane.
Question qui a été posée pendant le pré-générique. Timothée, bonjour.
Bonjour Da Screech.
Est-ce que tu vas un peu mieux, un peu bien, un peu moyen, un peu débordé, un peu saturé par les chroniques en retard?
Ouais, les chroniques en retard, c'est la première fois que je suis obligé de les de dispatcher sur plusieurs émissions tellement j'en ai en retard.
Non, non, t'as pas dispatché, c'est moi qui ai ça, Brian.
Et puis
petite
sinon,
erreur, tu sais.
Et puis sinon, ça va, j'entame aujourd'hui une série de chroniques de films asiatiques pour l'été. Je me dis que j'en ai suffisamment au taquet là, donc ça c'est bien, c'est pas mal. On va essayer de brasser large au niveau des nations, c'est bien.
Oui, puis c'est vrai qu'en plus tu commences par les Sud-Coréens si je me trompe.
Tout à fait, tout à fait.
Un pays en pleine partition et guerre là-dessus, ça tombe bien puisqu'on va parler d'un autre pays en partition tout à l'heure.
Quel enchaînement.
Ah non mais elle était préécrite celle-là, non même pas. Sur la Belgique, beaucoup, beaucoup, beaucoup de noir, de hyper noir, du méga noir tout à l'heure, hein, promis juré. On va aussi parler un peu d'années hip et accessoirement, on va peut-être aussi parler des sorties qui aura lieu dans 15 jours dans la région, à savoir le festival... festival. C'est une fête de la BD à Eos, et vraiment une fête parce que c'est un petit village donc qui est dans le Gers, qui est à quoi, une heure et demie de route de Toulouse, où en plein milieu de l'été, c'est-à-dire le premier week-end d'août, eh ben il y a des auteurs qui viennent, il y a des auteurs de la région, il y a des auteurs qui reviennent, il y a des auteurs qui viennent d'un petit peu plus loin. Et Eos étant aussi la capitale de l'Armagnac, on sait reconnaître les Belges. Ils sont tout rouges et ils font le dessin tout rond, surtout c'est un grand moment parce que des auteurs sont accessoirement complètement disponibles au public, des auteurs pas des moindres. Puisque donc ont confirmé leur venue dans la dernière liste que j'ai pour les 20 ans de la fête de la BD Eos qui aura lieu le dimanche 7 août. Aymon, Azara, Bergès, Frédéric Bézian, Olivier Boiscommun, Brazao, Karine, Chéré, Cécile Chico, Correa, Jean-Claude Denis, Philippe Druyer, Serge Ernst, Giancarlo, JF, Franck Giroux, Serge Goulesque, Virginie Grenier, Olivier Granson, Amo, Jean-Ry, Joannigo, Lepage, Laureline Matussi, Miton, Murzo, Pauvert, Michel Plessis, Ratera, Sternis, Béatrice Tillier, Tutsai, Turk, Venanzi, Roger Widem Locher, Johan et Zidrou, cette fois-ci sans me planter sur aucun des noms, c'est super, il y a un peu tout, vous avez vu, il y a vraiment du très gros, du très classique, du fanzine, il y a des coloristes, il y a un peu de tout, il y a vraiment du beau monde qui vient, ça vaut vraiment le coup. Alors ça aura lieu pendant la journée du dimanche avec un apéro à midi et un repas le soir. Avec participation, l'entrée est libre, hein. Par contre, ça je le précise, il y a un coin en général pour les enfants, il y a des coins libraires, il y a les coins fanzines qui ouvriront dès le samedi. Justement, si vous voulez découvrir un petit peu les auteurs qui seront présents, ça vaudra vraiment le coup. Alors je ne sais pas si on va se permettre d'y aller, mais ce serait dommage, encore une fois, de les snobber, alors que c'est vraiment, vraiment un truc super sympa. Donc les 20 ans de la fête de la BD à EOS dans le Gers sera le dimanche 7 août, et on vous le rappellera encore pendant deux émissions, et peut-être que du coup, ben, je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui seraient chauds pour y aller? Ah, pardon, excuse-moi, j'ai...
Ça tombe quand déjà?
Dimanche 7 août.
Le 7 août, eh bien, écoute, Peut-être.
Du sport ?
J'étais pas dedans là. Où ça ?
EOS.
refais ta chronique.
EOS dans le Gers pour les 20 ans.
Ah, peut-être, oui.
Il y a un apéro. Ah.
Là, t'es mal tombé, tu vois. Ouais. Là, <c'est... rire> plus d'infos sur bdeos.fr, il me semble, ou sinon sur le site Opal BD qui regroupe tous les festivals qui a lieu en France en général. Donc ça, c'est, je pense, que ce serait vraiment dommage de passer à côté. Voilà. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais le 21 juillet, c'est-à-dire avant-hier, c'était la fête nationale de la Belgique, s'il vous plaît, et il y avait à la fois une euro-réunion pour sauver les dettes grecques et irlandaises. Oui, je sais, ça fait toujours rire quand on parle des dettes. Mais il y avait aussi un meeting de conciliation entre les deux principales communautés belges, à savoir la francophone, la néerlandophone. Oui, parce que les germanophones, ils n'ont pas fait sécession. Hein. À 15 000, ils auraient un peu de mal, je pense. Oui, bon, ça va, quoi. Il n'y a pas de quoi rire. Et la veille, c'était le 20 juillet, c'était le mercredi. C'était à la fois le 400e jour sans gouvernement en Belgique. Oui. Grande nation sans gouvernement, grande démocratie. Hein, si vous voulez que je vous dise, je sais pas si c'est de l'anarchie à l'état pur, mais bon, quand même. L'anarchie avec un roi à sa tête. Mais aussi, c'était le jour de sortie de l'hebdomadaire Spirou. Alors que les dernières élections, je rappelle, c'était le 13 juin 2010, ont vu une majorité relative pour le New Vlaamse Atlantie, à savoir le parti indépendantiste flamand présidé par Bart De Wever, qui parle de faire la partition, c'est-à-dire que les Flamands deviennent indépendants par rapport à la Belgique. Eh ben, il n'y a toujours aucun gouvernement donc en Belgique, et du coup, ben, le journal de Spirou a fêté ça. Et sauf erreur de ma part, c'est bien la première fois que Spirou sort avec un contenu politique dedans. Le journal s'étant sabordé pendant l'occupation et avait toujours fait en sorte depuis de soigneusement éviter de parler politique. Alors peut-être que c'est un coup commercial, peut-être aussi est-ce le fait que le lectorat est autant adulte qu'enfant actuellement, ou peut-être c'est un sincère souhait d'en finir avec cette situation surréaliste. Donc le Spirou numéro 3823, distribué aussi en France, est un spécial Sauver la Belgique, hebdomadaire, 2,30€ en kiosque, et avec du contenu spécial ben, justement sur la partition de la Belgique. C'est assez fun et marrant à l'intérieur. Certaines pages sont absolument hilarantes. Par exemple, il y a Clark qui faisait Mélusine, mais surtout les histoires. Mister President, exactement. Là, il parle en une page de la situation en Belgique. Il y a Nyx qui fait Kinky et Cozy, que l'on a découvert chez Le Lombard, hein, pas chez Dupuis. Dupuis. On va essayer de le dire avec avec l'accent quand même pour une fois. Ou Dalé Janin qui livre des gags en une planche assez géniale. D'ailleurs, Dalé Janin qui explique un petit peu l'incompréhension dans un gag vertical, c'est-à-dire un strip en 4 cases. Thomas, d'ailleurs, c'est toi qui l'as, donc si tu peux me lire les cases 2 et 3, pour expliquer vraiment cette incompréhension que l'on a, nous, les francophones, vis-à-vis des néerlandophones.
Alors, Animal Lecteur, la BD dont vous êtes le héros, donc la case 2, c'est « Regardez, il y a une autre frontière, la bande dessinée flamande n'a rien à voir avec celle de Wallonie, rien !» Et la case d'après, c'est Van der Steen, Jeff... Ah d'accord, Nix, Mark, Slin, ils ont vendu des millions et des millions d'albums, il y a des dessins animés, des films, ils ont à eux trois plus de 1000 titres, et en Wallonie, on les connaît à peine.
Et c'est vrai qu'il y a eu une histoire qui est restée célèbre, c'est-à-dire que sur le plateau de la RTBF, ils avaient fait venir un député indépendantiste flamand, et il y a... Et il y avait un autre intervenant sur le plateau qui disait non mais c'est absolument anormal la manière dont on va partitionner la Belgique. Est-ce que vous vous rendez compte que la Belgique francophone n'aura aucune région côtière? Donc il faut que on sépare en deux en prenant en compte la surface, les plages et la densité par habitant. Le député était absolument furieux puisqu'il ne connaissait pas Philippe Gueluc.
Ah.
Et là, tu te dis, bah oui, bah c'est vraiment deux pays en un. Non, en fait trois, puisqu'il y a la région, il y a la région quand même de la capitale, à savoir le fameux BAG, Bruxelles,
Anderlecht,
et ah, flûte.
G.
Gand.
Non, c'est, V, j'ai oublié.
V.
En plus, c'est hyper connu. Donc, dont il est question de réduire la capitale, sachant qu'il y a une très forte majorité francophone déjà dans certaines régions flamandes, mais que quand vous êtes dans une région linguistique, vous ne pouvez voter que pour les pays, que pour les parties de votre expression. Donc, forcément, le parti indépendantiste New Vlaams Atlanti a fait un score monstrueux, tout simplement, en réaction des francophones qui ont une empiète assez importante, hein, je veux dire, justement, dans certaines communes. À noter que la situation inverse existe, justement, il y a beaucoup de Flamands qui parlent, qui sont en majorité dans certaines communes francophones. Enfin bref, c'est un délire absolu. On a une histoire complète des démons d'Alexia en 4 pages, qui sort de l'atmosphère assez lourde de la série pour exorciser le pays à la demande du roi Albert II. Bon, le problème, c'est que Alexia... étant française, donc francophone, donc moi je vous laisse imaginer le gag qui se pointe. C'est juste extrêmement très c'est une très bonne introduction justement à la situation inextricable en Belgique. Il y a juste un problème par contre, à mon sens, c'est que Spirou a arrêté sa version néerlandophone Robadouze il y a quelques mois, et c'est vraiment dommage que du coup, et ben, ça n'avait pas été traduit aussi à l'attention des Flamands. On se souvient aussi que la Belgique est aussi le pays du surréalisme et que la RTBF avait surpris ses téléspectateurs en présentant une actualité fiction où la Belgique se scindrait. C'était un événement qui a eu lieu en décembre 2006. On a su après coup que, en fait, ils avaient coupé en fait l'équivalent d'envoyé spécial où ils parlaient en fait de des Flamands qui touchent plus que les Wallons. Et du fait qu'on allait supprimer les allocations chômage en Wallonie, donc en plus, ils amenaient le public, et puis tout d'un coup, paf, ils avaient fait une fiction sous la forme d'une édition spéciale qui disait, attention, ça y est, la Belgique est séparée en deux, etc.
Et donc, il y avait eu des crises de nerfs des Belges, ça avait une grosse poussée de stress généralisée, c'est ça ?
Voilà, mais uniquement du côté francophone, puisque du côté néerlandophone, la RTB, ils ne l'ont pas fait.
Ah, ils l'ont pas fait, d'accord.
Ils l'ont pas fait, mais il y avait des politiques qui étaient dans la
combine,
qui avaient intervenu sur le plateau, etc. D'autres qui avaient préenregistré une partie, et en même temps, ils avaient profité pour mettre des reportages en disant, bah voilà, maintenant, quand vous faites le tour sur le périphérique de la commune de Bruxelles, vous avez changé au moins 8 fois de frontières. Donc, ça veut dire que vous changez 8 fois d'opérateur.
Oh, ouais.
Donc, c'était complètement délirant. Et c'était aussi, à l'occasion de la sortie d'un bouquin qui s'appelait Bye Bye Belgium. Tout cela, pour ça, hein, je vais dire, hein, c'était en décembre 2006. Et depuis, la situation s'est empirée, on n'est jamais été aussi proche. On verra, en tout cas on souhaite à la Belgique de retrouver, je vais dire, un petit peu de calme et de sortir de cette histoire typiquement belge, finalement. En comparaison, je crois que la Croatie était restée 304 jours sans gouvernement, l'Irak 280 jours, et le Sud-Soudan a trouvé beaucoup plus vite que cela, sa partition par rapport au Nord-Soudan. Sauf que là, il était question vraiment de guerre tribale, etc. Donc ça n'avait absolument rien à voir. On verra ce que cela va donner. En attendant, Spirou numéro 3823, spécial Sauver la Belgique, hebdomadaire en kiosque, 2,30€. Ça vaut le coup de l'acheter pour le coup, parce que... excusez-moi, j'ai fait une répétition, parce que c'est assez fun. Enfin, toi, tu as un petit peu farfouillé rapidement là-dedans. Je sais pas ce que tu en as pensé.
Oh, moi, j'étais content parce qu'il y a une mini-histoire avec Spirou et Fantasio et il y a Zorglub. Alors, comme j'adore Zorglub, je suis content.
Oui, sauf que c'est pas une mini-histoire, c'est la prépublication. Oui, voilà. Les prépublications continuent en même temps. Hein. C'est l'ombre du Z.
Oui, je cherchais le rapport avec la Belgique, mais non, celui-là, il n'y en avait pas.
Voilà. T'as trouvé les autocollants au milieu, d'ailleurs. Ouais. Assez fun, assez allumé.
Voilà, sauver la Belgique avec des chirurgiens qui essaient de recoudre la frontière et sauver Belgique, c'est une parodie de sauver Willy à côté.
Voilà,
ça fait des excellents autocollants.
C'est assez fun. À noter donc que Frédéric Janin, qui avait créé à une époque Germain et nous, a ensuite participé dans une émission sur Canal Plus Belgique qui s'appelait Les Snuls. Qui était tellement surréaliste que Alain Chabat avait foutu sur leur sur la loge des nuls et avait mis un papier en disant nous sommes les snuls français et ils avaient fait parler la partition depuis un bail, hein, c'est pas nouveau, hein, la frontière linguistique en question elle a été établie au début des années 80. Et ben ils avaient fait un morceau où en fait ils avaient fait un sample de Jacques Brel et ça s'appelait Avec. Radio FMR 89.1 MHz, 12h17, c'est le supplément week-end.
Dites-nous, Jacques, le plat pays, avec ou sans la mer du Nord?
Avec. Quoi? Avec ou sans les Wallons?
Avec.
Oh, dans les guérisons!
Dis Jacques, souris, la mer Belgique, avec ou sans Flamand? Et là, ah, oh!
Avec.
Souris, hein? Et là, ah, oh!
Là, je ne suis pas d'accord.
Dis Jacques, les Bruxellois, avec ou sans accent?
Avec.
Avec! Ouais, ça va,
mais non!
Dis Jacques.
Quoi?
Dis Jacques, t'as bien, avec ou sans mousse?
Avec.
Avec. De fait,
en bon.
Avec.
Oui.
Donc.
Ah oui.
Tout ne va pas très bien.
Wallaby, 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 di, di.
Tout ne va même pas bien.
Lovely. Ya, ya, ya.
Tout ne va pas très bien.
Wallaby, 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 di, di.
Ça va même pas bien.
Blablabla. Ya, ya, ya.
Dis Jacques, le chiffon grattant, avec ou sans, je sais plus.
Avec. Le gramique, avec ou sans rizaille.
Gramique.
Avec.
Bon Jacques, il faut s'y laisser les moules, avec ou sans frites.
Avec.
Mais non.
Oui.
Le stouf saucisse, avec ou sans saucisse.
Avec.
Magritte, avec ou sans pipe.
Avec.
Gare, commissaire Maigret, alors.
Mais c'est merveilleux.
De fait.
Avec.
Jacques, la France, avec ou sans tous les gros marlins.
Avec.
La Belgique, avec ou sans couper en deuil.
Avec.
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 Dis Jacques, mon cas.
pleniche, avec ou sans poil dur.
Avec quel bel animal.
Bon, l'essence, avec ou sans plomb.
Avec
les
noms. Bien sérieux, la masse d'un mille ici, est-ce que les envahisseurs sont d'origine ou...
Avec.
Ils sont de bonnes plaques, hein.
Des grands zèbres, blocs, c'est avec ou sans les yeux.
Avec.
De fait,
non. Les pistolets le dimanche, avec ou sans cuvette.
Avec.
Avec. Oui. Au chèque, que là, les belges, elles varient avec ou sans accent.
Avec.
Là, je ne suis pas d'accord.
Et pour me participer, je mets avec ou sans rien.
Avec.
Eh bien, figure-toi que je fais une belle collection de pils.
Ah oui.
Avec.
Baby, non, baby, non, baby.
Et la kermesse, avec ou sans le boudin.
Avec.
Allez, bien, allez, bien.
Des Jacques, le bloc pays, avec ou sans mer du Nord.
Avec.
Supplément week-end sur Radio FMR, les SNUL avec. Je pense pas qu'il soit pour la partition à Belgique.
Jacques Brel. Allez, on enchaîne alors.
Oui, 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 on fait une passe.
Allez, on fait une passe.
Allez,
on va parler plus sport de bourrin à présent avec le sport qui s'appelle le Bouffball. Alors, rassurez-vous, c'est un sport fictif.
Ah, mais ça, c'est en kiosque, hein.
C'est un kiosque exactement qui est à 3,50€. C'est un fascicule comics. Et alors, qu'est-ce que c'est le Bouffball? Il s'agit d'un croisement entre le foot américain, le rugby et le soccer dans le multivers, évidemment, Dofus et Wakfu dans Kama. Un sport qu'on avait pu apercevoir dans la série animée Wakfu, et on voyait justement une parenthèse dans l'intrigue principale où les héros devaient prêter main forte à l'équipe locale du Real Boitard c'était une équipe rouge, alors je sais plus comment il s'appelait, c'était Manchester en fait. Donc c'est une revisitation du rugby avec des petits animaux à la place de la balle. Alors là, c'est un fascicule comics, donc ça suit donc les aventures de Chris Lacrasse qui faisait le méchant dans la série animée, mais on s'aperçoit que c'était pas vraiment un méchant, c'était un mec qui avait une conception particulière du sport. C'est comme dans Olivier Tom, je l'ai balancé trop tôt la référence. Où Olivier il se heurte à des
mecs. Putain, mais on avait tout préparé, merde, t'es chiant.
Non, c'est pas vrai. Qui se heurte à un mec violent, bref. Donc là, c'est pareil. Au départ, Chris Lacrasse, il se retrouve dans le monde c'est des mottes, donc c'est un monde de pouilleux, de plouc un peu à côté d'une plage. Alors il y a son père qui était une légende du Bouffball, mais il lui a interdit de pratiquer le Bouffball, c'est trop dangereux, c'est la bouffer sa vie et tout. Mais évidemment, le rejeton, il a des réflexes innés et un certain style et une énorme force dans le bras. Donc il y a l'entraîneuse de l'équipe locale, donc je l'ai noté, alors attends, ça s'appelle le Siamois Lekama, voilà, donc il y a plein d'anagrammes et tout, qui dit: ah, mais tu es doué, jeune homme, viens voir si l'herbe est plus verte dans notre équipe. Voilà, donc c'est le grand début. Donc évidemment, comme dans Olivier Tom, il y avait Roberto Cedinho qui repérait Olivier en disant: oh, mais tu as un choix de pied droit, dis donc. Voilà, ça c'est là.
Attends, t'as pas encore balayé trop tôt, voilà la référence.
Ah, mais ça n'était pas prévu, je te reconnais bien là. Voilà, donc la référence Olivier Tom est évidemment tout à fait flagrante. On voyait la référence dans le dessin animé, on voit la référence dans la bande dessinée. Puisqu'Olivier Tom, évidemment, c'est un manga à la base. Et donc voilà, il y a pas mal de scènes d'exposition pour l'instant du blabla, mais c'est une série sportive. Pour l'instant, c'est le numéro 1, donc de juin 2011, 3,50€ en kiosque si vous voulez jeter un œil. Bon, c'est dans un style comics. On voit qu'il y a quand même une maîtrise dans le cadrage et tout. Bon, on sent que quand il va y avoir des gros matchs, ça va cartonner. Pour l'instant, voilà, ça en présente les personnages. Et alors, sachez que aussi, donc comme c'est un sport qui a été présenté dans la série animée, qu'on va certainement voir dans la bande dessinée d'Ofus, certainement, et Kankama lance à grand renfort de pub et de buzz, eh bien, nous sommes l'été. Ce sport se pratique aussi sur le sable, donc il y a un Beach Summer Tour.
Yes.
Et les dates qui arrivent, eh bien, le 26-27 juillet aura lieu à Mimizan, le 1er et le 2 août à Gros-du-Roi, le 4 et le 5 août à Port-le-Cat, le 7 et le 8 à Port-Barcarès, et le 10 et le 11, la dernière date sera sur Argelès-sur-Mer. Alors si vous voulez voir, vous faire initier à ce sport, des mini-jeux de plage, des ateliers, des activités manuelles, des tournois et des dédicaces d'auteurs.
Et, y a et surtout éviter Ancestral Z.
Il y aura, l'année dernière, il y avait Ancestral Z, je crois qu'il est reconduit. Il y a même Davy Mourier, puisqu'il y aura des émissions Inside Ankama pendant toute la tournée. Donc voilà, ça va être la grosse caravane. Bon, ça va être assez fun. Bon, il faut espérer pour eux.
Tu vois, dans les années 80, t'avais la caravane RTL, la caravane Europe 1. Là maintenant, c'est la caravane Ankama.
Ah, on a la caravane Tour de France. J'espère que la caravane Bouffebol polluera moins. Mais en tout cas, il faut leur souhaiter une météo plus clémente que celle que nous avons eue les derniers jours.
Oui, mais ils font battre par leur ancêtre à tous, le club Mickey.
Oui,
oui,
oh, bravo du sport.
Et si on entamait les sorties libresques?
Ah oui, dans les librairies, les lieux classiques. Alors là, on va à présent enchaîner avec Black Joke, tome 2, de Masayuki Taguchi et Rintaro Koike. Alors, Neon Island, une île contrôlée par les mafieux du monde entier, qui est aussi, dans un futur proche, le 51e état des États-Unis. Au milieu... Oui, parce que comme c'est un état des États-Unis, en fait, toute la vermine, les paradis pour jeux pour adultes, les hôtesses de luxe, les hôtels, eh bien, en fait, ils sont relégués dans une île qui est donc Neon Island. Et au milieu, il y a l'hôtel Onsen, ses suites de luxe et ses jeux de hasard. Il y a Kira l'intelligent et Kodama le bourrin invincible qui font le service d'ordre dans un style inimitable et peu avare en dommages collatéraux. Alors prenez place pour assister au grand carnage avec aussi une ninja, un paralysé psychopathe, un festival de brutes aussi savoureusement décalé que destructrice. Alors moi j'ai rarement vu une BD qui avait aussi peu de limites et de barrières au niveau des tronches complètement disproportionnées et n'importe nawak. On a aussi de la violence mais à un point où tu dis non c'est pas possible parce que t'as des gros plans et quand il y a un mec qui se prend une balle dans la tête et ben tu vois c'est un gros plan sur les... sur toute la giclure, voilà, quand il y a des boyaux qui giclent, ben t'as le boyau, gros plan sur le boyau qui s'écrase sur le mur, bon voilà. Tu sens que si tu veux conserver ta santé, faut pas aller là-bas. Alors par contre au niveau du graphisme, c'est ultra classe, par contre c'est. Il y a beaucoup de jeux sur les trams, sur les dégradés, tu vois que c'est propre, c'est. Ils ont des chaussures bien cirées, des belles bagnoles qui brillent, l'hôtel, bon voilà, c'est des hôtels de luxe, alors ça brille de partout. Ils sont bien habillés, costumes super classe, super bien taillés et tout. Mais après voilà, les mecs qui sont à l'intérieur, bon, mais c'est que des festivals de tronches pas possibles, t'as un ancien sniper de l'armée qui est devenu obèse parce qu'il a été marqué à vie par des nanas qui avaient une purification ethnique, donc elle se faisait violer par derrière par plein de soldats. T'as un autre gars qui est présenté pendant toute la première partie du tome comme un gars super invincible, c'est un gars qui a trop la classe et tout, et puis à un moment donné t'as le héros qui arrive et dit ah mais oui lui c'est celui qui a chié dans son froc quand c'était au service militaire et en fait ça dégoupille tout, voilà, c'est vraiment d'humour second degré, franchement tu rigoles quand tu vois la BD. Et puis si vous aimez un peu l'humour la violence déviante où vous réjouissez de voir le plus de violence possible, c'est aussi une BD pour vous. Parce qu'il faut pas se l'avouer, il faut se l'avouer quand même. Bon, c'est quand même assez, c'est jouissif, quoi. C'est violent, c'est voilà. Donc voilà, Black Joke 2, moi ça m'a fait marrer. Mais moi j'attends le prochain tome. Et je sais que je vais pas me torturer le cerveau avec, mais quand même, il y a quand même une certaine originalité dans l'invention des personnages. Et puis mine de rien, ce sont des personnages qui sont récurrents. T'avais la présentation du paralysé à la base. Tiens, Ron Over, c'est un Italien. Qu'on verra plus, ben en fait non, il revient, alors il leur donne des missions des fois, c'est un mec un peu sadique, qui adore le vin et tout, voilà, t'as des ninjas qui reviennent aussi, et puis finalement t'as des morts, donc forcément ils reviennent pas, mais t'as aussi pas mal de persos qui se prennent la loose, et puis après qui veulent se venger, donc ils reviennent après, bon ça c'est rigolo, parce qu'ils vont se prendre d'autres loose après, bon, voilà. En plus il y a question de dopage dans ce deuxième tome, donc c'est assez rigolo aussi. Donc voilà, Black Joke par Masayuki Taguchi, donc qui était le dessinateur de Battle Royale, et Rintaro Koike, c'est chez Ankama, et c'est tout à fait réjouissant. Alors cette fois on délaisse un peu la violence graphique de Black Joke, mais on va pas y perdre au change puisqu'on a plus de la violence cérébrale, même du bizarre, avec des doubles pages super violentes qui te sautent à la gueule sans prévenir. Donc c'est Soul tome 4 par le maître du bizarre Atsushi Kaneko. Donc voilà, l'enquête de Onoda, donc c'est la fille moche qui appelait le ton par son supérieur, et son supérieur Yokoi qui appelait le gros la moumoute par les gars de la ville.
Ouais, celui qui se gratte les couilles.
Voilà,
qui, oh et qui, non, et qui, s'il vous plaît,
et qui se gratte les orteils pour les sentir après sous les vaisselles et tout. Voilà, donc évidemment, l'enquête, c'est pas un mystère, elle continue de piétiner, mais allègrement. Même s'il y a certains fils qui sont démêlés du mystère, puisque au fur et à mesure qu'ils ferment des portes, en te expliquant des mystères, il y a d'autres portes qui s'ouvrent, mais des portes qui étaient déjà ouvertes au début sans que tu t'aperçoives trop, mais qui a une revisitation au fil des tomes en te disant tu croyais que c'était ça, mais en fait c'était pas ça. Ah oui, c'est vrai, c'était relégué au second plan et ça revient. Alors, où sont passés les membres de la famille Suzushiro? D'où viennent les colonnes de sel? Qu'a vu le policier Ishinose avant de disparaître? Que devient Kento, le jeune étudiant qui se masturbait dans des locaux complètement cramoisis? Il était amoureux de Misa, souvenez-vous, la fille qui s'était faite violer par un gangbang avec des mecs qui s'étaient mis à trois. Voilà, autant de nœuds impossibles à défaire et à rendre fou n'importe quel enquêteur déjà bien assommé par la chaleur suffocante s'abattant sur cette ville aux habitants bizarres. Faut aussi souligner que le chef du quartier avait été tabassé à mort, enfin non poignardé je crois, par une mère de famille qui s'est aperçue qu'il faisait des choses bizarres avec des petits garçons. Mais apparemment, ce ne sont pas eux qu'il faut craindre le plus. On l'apprend dans le tome 4 à nos dépens. Voilà, donc Atsushi Kaneko, il réussit son pari. Tu te dis, dans les deux premiers tomes, bon, ça va, on voit grosso modo où la série va finir, ça va aller là-dedans. Ben en fait, pas du tout. Tu te dis, ça prend un autre virage complètement à 180 degrés dans le tome 3. Tu te dis, bon, le tome 3 est un peu en deçà par rapport au 2. Mais en fait, non, ça préparait la sauce qui allait gicler dans le 4. Bon, quand je dis giclure, c'est pas vraiment de la violence graphique, c'est autre chose. Alors tu t'attends à tout, il brasse plusieurs genres. Au début c'est une enquête policière, finalement tu t'aperçois que c'est pas du tout l'enquête qui l'intéresse. Tu vas plutôt dans des mœurs d'habitants d'une ville bizarre qui est un peu analysée à la loupe. En fait du tout, tu t'aperçois que l'analyse, ça a vécu. Dans le tome 4 tu vois qu'il y a quand même des trucs bizarres, un peu comme j'avais déjà parlé de l'école emportée au départ. Mais en fait tu t'aperçois que l'analogie elle est vraiment très présente avec du fantastique qui est vraiment bien 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 présent. Il y a toujours des festivals de psychopathes. Lynch non plus n'est pas loin dans cette description des pavillons.
Mais quand on l'avait rencontré Kaneko, je crois que c'était l'une des références qu'il avait donné.
Et il me semble, s'il l'avait pas dit, en tout cas je pense qu'il doit être fan du bonhomme. Voilà, donc c'est en plus pour couronner le tout, il y a un festival de canulars de mauvais goût qui sont perpétrés par des gamins un peu désœuvrés, mais quand tu les vois de près, tu vois, mais non, ils sont trop propres, ils sont trop gentils pour faire ça. Voilà, je dis pas plus, mais voilà. Donc je pense, franchement, je sais pas jusqu'où ça va aller, je sais pas combien il y a de tomes, je sens que c'est un chef-d'œuvre en puissance.
C'est en cours. Hein.
Ouais, ben je pense que c'est un chef-d'œuvre en puissance à cette série, parce que franchement au niveau du cadre, de la narration, des personnages, alors forcément comme c'est que des psychopathes ou des gars bizarres, franchement ça te met une distance. Tu peux pas trop être impliqué dans l'histoire comme tu l'étais par exemple avec la série Pluto, où tu pouvais t'identifier aux états d'âme de l'enquêteur gazicht. Ici, en fait, même les enquêteurs sont étranges. La nana, tu peux pas dire que ce soit l'héroïne, parce qu'elle est vraiment space, et puis franchement, tu vois que le mangaka, les gars normaux, les enquêteurs, c'est pas vraiment les personnages qui développent le plus, quoi.
Bah, je sais pas si tu te souviens de Bambi, mais en fait, dans Bambi, il y en avait aucun qui était normal. Il y a un gosse, au bout d'un moment, qui se fait prendre en otage, te rends compte que c'est le dernier, lui aussi, des abrutis et tout. Et les mecs, ils sont les plus innocents, les citoyens les plus normaux. C'est soit des silhouettes tout au fond qui servent juste en fait de cible, soit des silhouettes de très près qui servent juste de chair à être tranchée, quoi. Donc
voilà.
Donc ça a aucune moralité en général. Et alors c'est très étrange parce que quand tu le rencontres, type il est tout calme, tout gentil,
présentable.
Oui, et puis parfaitement contenu. Il dit oui, bon, ce que je fais, oui, c'est indicible. Mais voilà, quoi, c'est...
En plus, là, c'est souligné par le fait que, contrairement à Bambi, qui était un road movie, là, c'est vraiment un huis clos dans une ville vraiment très étrange. Et tu t'aperçois que la galerie de psychopathes que t'avais au début, c'était pas les plus dangereux. et il se passe d'autres trucs. Voilà. Donc voilà, toujours autant de plaisir à lire ça. Et puis franchement, allez-y si vous aimez le bizarre, l'étrange, le glauque et que vous aimez être surpris.
Voir le graphisme de voilà, Kaneko ouais. qui est vraiment d'une précision oui, absolument redoutable.
Oui, comme je dis, c'est le graphisme de notice de d'avion en fait.
C'est enfin voilà quoi, t'as l'impression que c'est fait sur Illustrator, c'est vraiment c'est du dessin technique oui. Mais voilà, à l'énorme différence de la BD que j'avais massacré il y a 15 jours sur les deux chevaux, c'est un dessin qui a une âme, qui a un vécu dans lequel c'est pas bêtement tiré non c'est un dessin qui est très maîtrisé de ce côté-là. Attention.
Voilà, qui contrebalance bien l'atmosphère très étrange. Voilà, donc Soil, on est déjà au tome 4 de Atsushi Kaneko. C'est édité chez Ankama et voilà, c'est du lourd, c'est du bon.
Et on reste sur du manga avec Totsiaki Washiro avec Psyrène, dont les deux premiers tomes sont sortis chez Kana. Comment résumer le script? En plus, c'est vrai qu'il y a vraiment une coupure à la fin du premier tome, donc c'est vrai que c'est pas évident.
Ah, on adore couper Descrits dans sa chronique. Vous avez...
Ah bah non, ils sont dessous là. Je les vois.
Non, ah non, c'est pas ceux-là.
Non. Bon, d'accord. Ah, pardon, ils sont là. Voilà.
Merci.
Pour que vous puissiez juger sur pièce. Agea est un jeune lycéen qui vit avec sa grande sœur. Bon, sa grande sœur est un peu en charge du gosse, hein, quand même. On va pas dire qu'en plus il a de bonnes notes, ni que c'est un bad boy, juste un garçon totalement ordinaire, mais... Bon, est plus ou moins intéressé dans ce qu'il fait quand même au lycée. Un jour, il tombe sur le portefeuille d'une camarade, Sakurako, et il y entrevoit dedans une mystérieuse carte téléphonique frappée du logo Psyrène. Alors en fait, je le dis Psyrène, hein, mais en fait, il faut prononcer Sirène. Donc vous sachez qu'il y a un P qui est non dit au début. Le lendemain, cet ami disparaît. En fait, il y a une vague d'enlèvements, des jeunes, des adultes, on ne sait trop s'il s'agit de fugue, sans plus, donc. Agea va donc chercher à retrouver cette fille et son chemin va croiser une supposée société secrète, Sirène, en la personne de son mystérieux messager, Nemesis Q. En l'objet, une carte téléphonique. Agea se retrouve donc possesseur d'une des très bizarres cartes téléphoniques en question sur lesquelles des allumés sont prêts à y mettre des millions de yens pour en acquérir une. Alors pourquoi lui ? Mettant cette carte téléphonique dans une cabine publique, Agea se retrouve sur un service téléphonique assez étrange. Mon Dieu, mais aurais-je assez de synonymes pour tenir jusqu'à la fin de ma chronique ? Le voilà à répondre à une multitude de questions très 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 personnelles. Le lendemain, agréé par des personnes malveillantes, qui tiennent absolument à lui voler sa carte, il répond sur son portable et se retrouve projeté dans un autre monde. Un monde absolument désolé. Ravagé, détruit, avec d'autres kidam qui, comme lui, se sont retrouvés en possession d'une carte téléphonique sirène, ont répondu à un questionnaire et se font rappeler. Un univers en ruine, hanté par des monstres mortels. Agea va y retrouver Sakurako, blessée, qui dans un souffle lui dira que tout ceci n'est qu'un jeu, un jeu mortel. Règles précises. Rejoindre une porte de sortie, éviter les monstres et surtout bien mémoriser un plan. Une bataille épique commence alors et à la sortie de la porte, il apparaîtra qu'ils ont été transposés non pas dans un autre univers, mais dans le futur du même lieu. Qui peut bien s'amuser à ça ? Qui est derrière Sirène ? Que va-t-il arriver pour que le monde change à ce point ? Et si la règle du jeu est survivre ? Y a-t-il un moyen d'arrêter ce cauchemar ? Bon, l'histoire de l'univers miroir horrifique fait immédiatement penser à l'ambiance des jeux Silent Hill. Hein, là-dessus, je pense qu'on est tout à fait d'accord. On va consacrer une spéciale là-dessus avec Christian Mondo. Avec le même côté impitoyable, les règles non écrites à découvrir au plus vite et au moindre faux pas immédiatement sanctionné. Sauf qu'au début du deuxième tome, nous apprendrons que ceux-ci qui ont voyagé dans l'univers Psyrène gagnent des pouvoirs psychiques. Mélange de fantastique et d'horreur, ce shonen manga est plutôt bien amené, intéressant dans l'intrigue, mais laisse entrevoir qu'il pourrait très vite retomber dans les travers habituels du genre. Car après tout, il ne faut pas oublier qu'on est dans un style d'histoire qui est archi rodé, puisque nous retrouvons la trame de l'entraînement à des pouvoirs spéciaux nouvellement acquis.
Ah ouais, bah c'est du shonen, hein.
Ouais. rien de bien neuf de ce côté-là. Mais l'histoire partait très bien. Peut-être que cette série se montrera consistante. On verra ça, en tout cas, par la suite. Le premier tome, en tout cas, moi, je l'avais vraiment trouvé bien. Et puis le deuxième tome, je me suis aïe, mince, retombe dans l'éthique. L'éthique.
Oui, oui. Mais toc. Mais moi, franchement, j'ai feuilleté, je me disais c'était pas extraordinaire et en t'écoutant, ça me donne envie de la lire. Donc.
Peut-être, qui sait, on verra. Sirène, PSYREN, tome 1 et 2 chez Kana de Tsuchiaki Iwashiro. Je suis vachement aidé parce que du sport, donc on n'avait pas décrit les ambiances des bouquins, donc je mets au hasard. Oh bah tiens, Mr. Scruff. Puisqu'on va parler des livres sans images. Et là, il me dit, bien vu. Oh merde. Vous êtes sur Radio FMR, c'est une radio alternative. Un coup ça marche, un coup ça marche pas.
Ouais.
Mais... Et là, on est du bon côté de la tartine dorée.
Non, là ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, deux livres qui sont sortis dans une même collection, en fait une collection très réduite, puisque bon bah c'est le numéro 2 et le numéro 3. Petite maison d'édition alsacienne, mulhousienne, qui s'appelle Sublime, tout
c'était
simplement.
C'était pas là où tu étais le week-end dernier?
Par hasard, quoi. Le premier s'appelle, le premier titre interpelle quelque part, About Rock, Sex and Cities. Ah, tout de suite, on voit un petit peu le jeu de mots et tout, on se dit, ok, c'est le titre un peu accrocheur et tout, histoire de quand même essayer de faire vendre le bouquin. Et quand on commence à le feuilleter, on se dit, ah, là, déjà, c'est plus pareil. Pourquoi? Parce que, contrairement au fait que j'ai l'habitude de chroniquer des livres sans images, ou alors des comics, hein, vous avez l'habitude maintenant.
Ou là, par contre, il y a des images.
Là, et par contre, il y a beaucoup d'images et pas beaucoup de textes. Là, c'est pas compliqué.
Beaucoup de couleurs saturées, oui.
Là, c'est pas compliqué. Il y a une page texte et une page dessin.
Ah, d'accord. Le combo aujourd'hui.
Voilà. Alors, c'est réalisé, c'est par Denis Chebel pour les textes et Henri Valizère pour les dessins. Et en fait, du côté des textes, ce sont des poèmes généralement. Alors, des poèmes qui ont, qui peuvent aller de la taille d'un haïku, c'est-à-dire une phrase, même pas, quelques mots.
Un haïku, c'est 3, 7 et 5 syllabes.
Ouais.
Si
ou alors carrément des textes un petit peu plus composés, un peu plus longs, des poèmes, hein, pas dans la forme classique, sonnet, alexandrin, tout le bordel, hein, une forme plus libre, plus contemporaine, voire quelques textes également en anglais. Et je vous en lis deux comme ça, vite fait, quoi. Le premier, celui qui ouvre d'ailleurs le livre, est céleste en nous tout ce qui est bleu, les traces de coups, les veines, les yeux, nos poumons, les rêves de l'aimer, le noir n'existe que pour montrer ou cacher. Un deuxième, comme ça, pour la route, confie-leur ta colère, ce que tu as, ils en font un courant électrique, en remplissent la salle jusqu'au toit, et le matin fera de leur art une relique. Bon, c'est un petit peu dans ce style, pas forcément tout le temps, il y a des trucs qui sont un petit peu... Et alors, si vous voulez, au niveau du dessin, bon bah on voit que bon bah ce sont des dessins
qui, oui, c'est plutôt réaliste, c'est fait à l'encre assez texturé.
Voilà, à l'encre assez texturé, et puis par contre, on tombe des fois sur des trucs un petit peu. Alors, il a Denis Chebel a une particularité, c'est qu'il a une passion pour les pieds.
Et plusieurs... Attention, Georges Tron n'est pas loin.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Je suis désolé. Y a cette blague était à sa pointure.
Il y a également pas mal de. Alors, il y a quand même quelques doubles pages, ah ouais. Les trucs de la femme et tout, et également des paysages, des endroits, des villes, si vous voulez, avec une prédilection pour Hambourg, pour Berlin, et surtout pour les quartiers un peu glauques. Situé dans ces endroits-là, hein, c'est-à-dire Reeperbahn à Hambourg, hein, quartier aux putes, et également le quartier Bahnhof am Zoo à Berlin, et un petit peu à côté tout ce qui est autour, quoi. Bref, c'est pas mal, ça se lit très très vite, et en même temps on apprécie un petit peu, parce que bon bah tu vois, il y a plusieurs sortes de dessins, c'est pas forcément tout dans le même style, donc ça se lit vachement agréablement, hein, moi je trouve ça vraiment vraiment très très sympathique. Donc c'est donc paru chez Sublime, ça s'appelle About Rock, Sex and the City. C'est pas tellement rock'n'roll en fait, hein, c'est pas tellement un esprit rock'n'roll à fond les manettes, dogmatiquement parlant, hein, mais c'est plus l'esprit un petit peu là de liberté, d'évasion, on va un petit peu n'importe où. Bon, caractéristique de la pensée du bonhomme, pour ceux qui le connaissent, l'ami Denis, avec donc ses illustrations de Henri Valizère, About Rock and Sex and the City, Sublime. Alors c'est le numéro 2 dans cette collection, qui est une petite édition, hein, qui est d'ailleurs sponsorisée par la ville de Mulhouse en plus, hein, pour vous dire. Et d'ailleurs, Denis Chebel est également un musicien qui a commis plusieurs disques, mais qui remonte à quand même pas mal de temps. Là, je vous propose un extrait de ce qu'il faisait en 1995, c'est-à-dire il y a très très longtemps.
Oui, merci.
Dans un groupe qui n'est pas vraiment un groupe, qui était plutôt un rassemblement de plusieurs personnes. Ça s'appelle Big Mini. On écoute le morceau Ma Tête.
Thank you. la tête que j'ai. Si tu voyais ma tête.
Ma tête. Radio FMR 12h52 pile, c'est le supplément week-end numéro 283. Cherchez pas de palindrome ou quoi que ce soit, y a rien. Par contre, si vous cherchez quelque chose et que vous prenez des substances prohibées pour y passer, là je pense qu'ils vont être très contents.
Ah, pas forcément. Pas forcément.
C'est gaffe, hein, la loi de 70. Hein.
Ouais, parce que le deuxième livre paru dans la même collection Sublime, c'est donc le numéro 3, le About the Rock Sex and the City, numéro 2, s'appelle Far Out. Far Out, qui est en fait une expression qui avait été développée dans les années 60 par les nouvelles communautés, enfin, par les hippies, par tous ces gens qui se réclamaient de la contre-culture. Dans l'Ouest, enfin pas seulement dans l'Ouest des États-Unis, également dans d'autres coins des États-Unis, et qui voulait dire plus ou moins excellent, super, enfin bon, nos expressions qu'on utilise actuellement, quoi. Et puis pour eux, c'était ça, c'était far out, quoi. Et c'est sous-titré les années hip, 8 Ashbury, Big Sur, India, Goa. En fait, bah, le parcours traditionnel des hippies à cette époque-là, hein, ça commençait donc à 8 Ashbury, qui est le quartier fameux de San Francisco, où s'est développée cette espèce de contre-culture, dans un quartier où on a vu arriver plein de jeunes qui ont commencé à se laisser pousser les cheveux, à refuser le pouvoir de l'argent, enfin bon, à dire on peut vivre autrement. En fait, c'était pratiquement les premiers écolos, hein, et qui mettaient leur dogme en pratique, en plus, hein. On refuse l'argent, on refuse de consommer, on écolo.
Non, les écolos, ils refusent pas l'argent. Hein. Il y a même une sénatrice qui trouve qu'elle est pas assez bien payée.
Ouais, non, mais bon, ok. Hein, donc Bernard Plossu, qui par ailleurs est quand même un photographe relativement connu parce qu'il en a fait son métier et qu'il en vit assez bien. Bon, bah, maintenant, il est un petit peu retiré vu qu'il commence à se faire assez vieux quand même. Bien Bernard Plossu nous raconte justement bien ses premiers voyages. À l'époque, il avait 21 ans, il se barre au Mexique et ensuite pour faire un reportage dans les Chiapas, mais pour sa gouverne personnelle, c'est-à-dire c'était pas un truc de commande et tout. 21 balais, je descends au Mexique, ensuite je remonte direction la Californie, et c'est là qu'il tombe dessus. Et c'était en 1966. C'est-à-dire un an avant l'explosion, le Flower Power, le Summer of Love de 1967. Et il se fait plein de potes là-bas, bien sûr, parce que bon, bah, l'ambiance était super bonne encore à l'époque. Et avec son appareil photo bas de gamme, entre guillemets, comme il dit, à l'époque c'était le Nikkormat, c'est-à-dire la version basse des Nikon. Hein. Il y avait les Nikon qui valaient quand même, qui étaient quand même de très bons appareils, il y avait les haut de gamme et tout. Le Nikkormat, c'était le, dans 24-36 réflexe, c'était le plus abordable au niveau du prix, on va dire, mais qui était quand même pas mal. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement toute cette série de photos qu'il a prises. Alors, c'était pas des photos faites pour un reportage, hein, qui sont publiées dans ce bouquin. Ce sont des photos qu'il prenait comme ça, des photos de ses potes, des endroits qu'il aimait fréquenter. et des petites choses qu'il a pu voir, des paysages, des concerts. Alors bah, toute une série de photos sur John Baez à l'occasion d'un John Baez et ses frangines d'ailleurs à l'occasion d'un concert folk. Voilà, de ce genre quoi. Ou comme ça, puisque bon, bah ok, tout le monde se connaissait, c'est-à-dire que bon, il n'y avait pas la distance qu'il y avait entre l'artiste et le public, hein, c'est-à-dire tout le monde déjeunait ensemble, mangeait ensemble, fumait ensemble, s'il y avait cette occasion, et rentrait en France, parce que bon, il rentrait souvent en France, eh bien, il va voir les rédacteurs en chef de Rock and Folk en 1969-70 pour leur proposer plusieurs de ses photos et plusieurs de ses reportages. Et à cette occasion-là, ben, il commence à écrire, hein, pour alimenter un petit peu, pour que ce ne soit pas simplement des reportages photos, pour coller un petit peu à ce que faisait Rock'n'Folk à l'époque. Donc, il commence à écrire des petits textes qui vont agrémenter les photos. Bon, ben, ok, Rock'n'Folk sort plus de textes que de photos. À son détriment, mais enfin c'était déjà ça. Et donc les textes qui sont parus dans les Rock and Folk de 1970 jusqu'en 1974 et qui avaient trait à partir de ces voyages, à partir de ces entre guillemets reportages, eh bien sont reproduits dans ce bouquin avec bien sûr une majeure partie de photos, hein, et c'est là que c'est vraiment très intéressant, noir et blanc, couleur. Et lui, bon, bah, uniquement, il travaille uniquement au 50 mm, c'est-à-dire l'objectif standard, mais il utilisait également à l'époque le grand angle, parce que le grand angle, le 28, était vraiment hip, on va dire.
Permettait de faire des photos spectaculaires.
Voilà, c'est ça. Et bon, à plusieurs fois, il explique que, bon, bah, non, le 28, c'est pas ça, ça déforme la réalité, ça fait chier et tout. D'ailleurs, il explique aussi que, bon, il a brûlé énormément de ses photos. À partir d'un certain moment, quand il a décidé de ne plus jamais se servir du grand angle.
Et alors que tout le monde disait oh ouais, il faut faire du grand angle, voilà. ça fait un effet trop spatial.
Ouais ouais, space, enfin ouais, c'est trop cool. Et donc ce qui fait que bon bah il y a pas mal d'archives d'archives photographiques qu'il a réussi quand même à garder et qu'il a exhumé pour l'édition de ce bouquin. Et bon bah c'est vraiment un retour en arrière qui est sympathique, hein, mais c'est surtout pour la qualité photographique que c'est assez intéressant, parce que
alors que le bouquin est en format poche, hein, attention.
C'est du format poche. Mmh. Alors bon, il y a quand même quelques doubles pages couleurs, des petits trucs comme ça et tout. Le grain est pas terrible, mais bon, c'est vraiment.
C'était la péloche de l'époque.
Ouais, aussi. Ouais, c'était la péloche de l'époque, mais il y a quand même des trucs qui sont vraiment.
C'est pas mal, ouais. C'est des beaux témoignages.
Voilà, ça c'est des sadous, quoi. Ouais. Hein, c'est pas des prêtres, mais enfin les mecs qui se baladent comme ça, qui ont refusé tout besoin matériel. On y croise quelques personnages vachement connus, Jerry Rubin, Allen Ginsberg, enfin tous les animateurs de la contre-culture de l'époque. Et également des photos qui concernent des gens qu'on connaît bien, quoi. Tu vois, le mec à gauche là, c'est Jean-François Bizot, puisque à l'époque, ils se connaissaient tous, de toute façon, hein, Philippe Cochelin, Philippe Paringo, qui était les rédacteurs chefs de Rock'n'Folk, donc François Jouffa également, parce qu'à l'époque il avait publié quelques-unes de ses photos en 67-68, puisqu'il avait, il publiait également un périodique qui s'appelait Bande à part, qui parlait surtout de la musique actuelle, hein, actuelle à l'époque. Et ça fait vraiment un témoignage vraiment sympathique, parce que quand on lit les textes, ce sont les textes d'époque qui n'ont pas été réécrits. Donc il y a une certaine naïveté quand même dans le texte. Enfin,
naïveté parce que voilà, nous on a eu le vécu de ce qui s'est passé.
Tout à fait, tout à fait.
C'est ça qui est intéressant.
Tout à fait. Mais par contre,
ça explique l'état d'esprit réellement de ceux qui les animaient.
Ça explique l'état d'esprit, mais en même temps, de la part de Bernard Plossu, ben il y a quand même une part de conscience qui est assez développée pour l'époque, à se demander s'il n'a pas réécrit les textes par la suite. En se disant bon ok, si je réfléchis à ce qui s'est passé avant et tout, eh ben non, ça a été écrit sur l'instant. Et bon bah par rapport à la prise de drogue et des trucs comme ça et tout, bon c'est vraiment quelqu'un qui était relativement bien dans sa tête pour ne pas céder aux sirènes de l'explosion de la tête. Allez vas-y, on s'en va en l'air, on en a rien à foutre. Il restait quand même vachement conscient de ce côté-là. Hein, bon bah il dit franchement bon ok, moi je faisais que fumer, j'ai jamais pris de LSD et tout, je sentais pas ça. On a vu arriver ceux qui ont commencé à prendre les drogues dures et tout en Inde, à Goa et tout ça. Et donc bon bah
qui fait que bon, bah, il y a quand même une petite portée historique dans ce bouquin qui est assez sympathique. Bon, ok, il y a quand même relativement peu, je crois qu'il y a 4 ou 5 articles maximum. L'essentiel, ce sont quand même vraiment les photos. Et là, bon, bah, ça nous fait quand même un document assez sympathique, hein, sur un petit peu l'état d'esprit qu'il y avait à l'époque et sur ce que ça pouvait être à l'époque. Et c'est vrai que quand on a des témoignages de cette époque-là, bon, bah, vu la technologie qu'il y avait en ce temps-là, bon, bah, c'est souvent des trucs en noir et blanc. Il y a très peu de trucs en couleur. Et là, vraiment, on a pas mal de trucs de photos en couleur. Et là, c'est, ça prend tout à fait une autre dimension qui est vraiment très, très agréable. C'est Far Out, donc, de Bernard Plossu. Mais alors, Bernard Plossu, les photographes le connaissent, les photographes professionnels. C'est un type qui est vraiment reconnu parce que après, il a réussi justement à en faire son métier. Il a travaillé pour des magazines de mode. Il a aussi travaillé surtout pour des revues qui parlaient d'animaux. Il a beaucoup photographié les animaux sauvages dans leur élément. Et il a fait également pas mal de photos pour documenter des régions particulières, que ce soit en France ou dans le monde. Donc c'est devenu, par la force des choses bien sûr, un très très bon technicien. J'ai pu feuilleter d'autres bouquins de photos qui sont de lui et qui sont plus récents, et là bon, on voit vraiment que c'est un type qui bon sait se servir d'un appareil, ça il y a aucun problème, et qui savait également très bien développer les photos. C'était bien entendu avant le numérique. Far Out, donc, de Bernard Plossu, c'est paru aux éditions Sublime, numéro 3. Alors, le About Rock, Sex and the City, il est paru en 2009-2010, et celui-là vient de sortir, donc, c'est recommandé, mais enfin bon, c'est peut-être pas évident à trouver, hein, consultez peut-être le net pour vous les procurer.
Radio FM, un seul super en week-end, donc il est 13h03, c'est vrai que j'avais prévu de mettre une autre interruption musicale qui était assez sombre et tout ça, et puis finalement, bon, ouais, hein, après un truc un petit peu cool, avant d'entamer la télévision.
Ouais, un petit, bah, et le cinéma, là.
Quel con.
Non, mais c'est systématique, là, il n'y a pas de problème, hein.
Non, moi je dis plus rien, moi, c'est...
Alors, on devrait se faire un jingle, carrément, quoi.
Ah ouais, ouais.
Hein?
Je sais pas, ouais,
on va gamberger au truc. Ouais. Ok.
J'en suis désolé. En plus, c'est censé être glauque.
J'ai encore oublié le cinéma, mais c'est un mec pour moi.
Eh oui, donc aujourd'hui, j'entame une petite série de chroniques de films asiatiques pour l'été du supplément week-end. Donc, je vais voir, on va voir.
J'ai pas mis Hong Kong.
Oui, mais aujourd'hui, planter. Justement, c'est pas Hong Kong, mais je vais essayer de faire des films, justement, qui sont pas que chinois. Alors, je vous promets pas, bon, l'été, normalement, se dure jusqu'à fin septembre, et je ne sais pas si, enfin, jusqu'à septembre.
Je te rappelle qu'on a des spéciaux en extérieur. Hein,
voilà, et donc, je ne suis pas sûr de pouvoir tenir tout l'été jusqu'en septembre avec des films asiatiques que je n'ai pas chroniqué encore sous cette antenne, mais on sait jamais, on va voir. J'en ai quelques-uns sous le coude. Donc, aujourd'hui, nous commençons, par Thirst. Mais Thirst, c'est TH, pas F. Donc, c'est pas premier, c'est soif.
Thirst.
Thirst. Voilà, donc le film le Thirst, ils ont titré en français Thirst, ceci est mon... Attends, je refais. Alors, à l'international, il s'appelle juste Thirst, et en français, ils l'ont appelé Thirst, ceci est mon sang, parce que c'est juste pour illustrer que c'est un croisement entre les films de prêtres et les films de vampires, parce que là il s'agit d'un prêtre qui devient un vampire. Voilà. Donc c'est un film sud-coréen.
In the name of God, I'll kick your ass.
Voilà.
Non, c'était donc, pas un vampire.
C'est un film réalisé par Park Chan-wook, donc le réalisateur de Hellboy.
Belle référence.
Avec Song Kang-ho, Kim Ok-win, et c'est disponible en DVD chez Wildside Video.
Song Kang-ho qui est également dans Le Bon, la Brute et le Truand, hein, mais
Le Bon, la Brute et le Cinglé. Et c'est le gros. Je crois que c'est celui qui fait le gros, qui est en pleurant, oui. Mmh. Peut-être, oui, tout à fait. Pas sûr, mais je vérifierai pour la semaine prochaine, si tu veux. Alors, Sang-hyun, jeune prêtre sud-coréen. Alors, il est très aimé de ses paroissiens. Aussi, c'est en cachette qu'il part se porter volontaire en Afrique pour tester un traitement expérimental contre un virus mortel. Alors, les conséquences du virus mortel, c'est que t'as la peau qui est purulente, t'as des boutons partout, ça éclate et tu meurs. Alors, mais contrairement à tous les autres cobayes, il survit miraculeusement, mais par contre, à quel prix? Le sang transfusé en question, il a fait devenir vampire. Donc voilà, gentil prêtre, il devient vampire. Alors il revient en Corée du Sud, alors il est miraculé, il est bourré de pansements parce que quand même, il a la peau qui est devenue purulente quand même, mais même s'il a survécu, et il s'aperçoit que la nuit tombée, alors c'est surtout le soleil qui lui fait ça, et la nuit tombée, en fait, ça disparaît. Donc il devient une espèce d'icône pour les paroissiens, il va bénir tout le monde et tout. Et il arrive dans une famille, par la force des choses, un peu singulière, dans la décoration intérieure est faite de briques et de broc, ils boivent de la vodka, c'est du bouddhisme, du japonais, du chinois, du coréen, bon voilà. Et donc il y a la jeune fille qui est mariée la femme qui est mariée au fils de la famille, qui est un peu attardé sur les bords et un peu bizarre, et la fille, elle est un peu indépendante la nuit, il voit que elle va courir dans la rue pieds nus et tout. Bon, évidemment, il arrive ce qui devait arriver, il commence à développer des pulsions que ne devrait pas éprouver un prêtre pour cette fille. Évidemment, comme la condition de vampire aidant, ils vont franchir le pas, ces deux tourtereaux. C'est un film de Park Chan-wook, qui était déjà réalisateur de la trilogie de la vengeance, qui était Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance, et qui a ensuite réalisé entre-temps I'm a Cyborg, but that's okay. Voilà. Et donc il revient, justement.
Je rigole
de mon accent, c'est ça?
Ouais.
Voilà.
First.
Et le réalisateur Park Chan-wook explore à nouveau le tréfonds de l'âme humaine. Parce qu'il aime bien placer des hommes a priori pas prédisposés pour faire le mal ou pour faire de la vengeance, pour faire des actionneurs, mais par la conséquence d'actes réprimandables, souvent liés à la mort de quelqu'un, ils deviennent quelqu'un d'autre où ils sont embringués dans une espèce d'histoire sordide jusqu'au boutiste qui va mener lui ainsi que d'autres gens vers le point de non-retour. Donc c'est un peu l'idée de Hellboy et de pas mal de films sur la vengeance, où la vengeance appelle la vengeance, la loi du talion, voilà. Il avait exploré pas mal cette thématique, et là même sous ses abords de films de vampires avec un prêtre et tout, films un peu sexuels, on revient toujours dans la même thématique. Alors c'est une relecture originale du mythe du vampire, puisque le vampire, on se retrouve pas dans Entretien avec un vampire, c'est pas des gens qui sont un peu empoulés, un peu homo, un peu androgynes dans la Louisiane. Hein. Là on est dans la Corée du Sud, un truc bien à la frontière entre
Et puis grande terre de chrétienté, hein, déjà à la base. Hein.
Voilà, qui est à mi-chemin entre le rural, l'urbain. C'est une famille qui est pas noble du tout, hein, c'est plutôt des espèces de bouseux. Le prêtre en question, il était gentil à la base, il avait pas des airs de haha, je me la pète ou je suis un leader. Non, c'était juste un pauvre prêtre qui était aimé de ses paroissiens. Et donc là, le mythe du vampire, justement, le vampire commence à devenir vampire, parallèlement à ses pulsions sexuelles pour la jeune fille. Donc évidemment, ça va être, dans un premier temps, tu crois que le film du vampire, c'est juste un prétexte pour montrer des ébats, puisqu'il va bénir des gens, parce que comme il devient vampire, forcément, il va travailler que la nuit. Il va commencer à bénir des gens uniquement de nuit dans un hôpital. Alors elle va le suivre, et là ils vont commencer à s'amuser sur des lits d'hôpitaux, puisque forcément les gens comateux, c'est pas très bruyant à côté, puis tu peux te permettre de faire certaines choses, tu seras pas réveillé par les voisins. Donc voilà, tu te dis, bon, au premier abord, c'est un film sur la tyrannie sexuelle, bon voilà, c'est un peu chaud et tout, bon. Et finalement, tu t'aperçois que, bon alors déjà, le thème du vampirisme, il est pas traité comme d'habitude, c'est plutôt soft, peu d'effets. Alors il y a quelques scènes où ils se baladent avec des câbles, forcément, parce qu'il y a quand même, ils ont quand même des pouvoirs. Alors, je me suis vendu, puisque j'ai utilisé le pluriel. Sachez, ami auditeur, qu'il n'a que lui qui est vampire au début. Voilà, voilà. Voilà, peu de débauche d'effets. C'est surtout une mise en scène de l'espace où le prêtre va surtout s'échapper d'une pièce assez en huis clos, un peu étroite par une fenêtre. Alors ça, la caméra va être passée à la verticalité, donc on va plutôt le voir s'échapper d'une fenêtre, mais on va croire au début que c'est plutôt des jeux sur la perspective, etc. C'est assez soft, c'est sobre. Quand il se balade vite, on le voit pas courir à la Lee Major, hein. Ça va être plutôt des pas assez rapides, avoir des cuts et tout. C'est un bon sens de l'épure. Et au fur et à mesure que le film avance, on va plutôt vraiment entrer de plein pied dans le vampirisme, avec la difficulté qu'il a de se nourrir, où trouver du sang, est-ce qu'il va être fidèle jusqu'au bout à ses préceptes de prêtre, hein, puisqu'il faut pas qu'il tue. Est-ce que ça va être une décision de lui-même ou est-ce que ça va être influencé par d'autres gens? Ça, je vous laisse le mystère. Mais voilà, Park Chan-wook va se confronter justement à toute la thématique vampirique. Comment on fuit le soleil, comment on survit, comment on reste anonyme, etc. Voilà, on va dire que cette partie du film, elle est un peu plus convenue, un peu plus attendue, un peu plus déjà vue ailleurs, alors que toute la première partie, moi, j'ai trouvé vraiment intéressante, justement, puisque c'était comme Claire Denis avait fait sur Trouble Every Day, puisqu'elle traitait aussi du thème du vampire, mais c'était avec des cannibales qui se bouffaient la gueule parce qu'ils étaient pris les uns des autres, ils voulaient se sauter dessus. Et là, c'est un peu pareil, mais façon plus classe, plus froide. Mais après, voilà, on va dans le thème du vampirisme. Et c'est un peu ce que je reproche à Park Chan-wook, c'est qu'à partir du moment où il assume justement que c'est un film de vampire, c'est là aussi qu'il se lâche et qu'il revient aussi dans une sorte de redite par rapport à Lady Vengeance, dont je n'étais pas très fan, avec justement des personnages qui se trouvent confrontés à des dilemmes moraux, où à partir du moment où il passe un point de non-retour, et ben on va vers quelque chose d'autre, on va vers... on va dire vers une... vers quelque chose de jusqu'au boutiste et vers...
une fuite en avant, quoi.
Une fuite en avant, et puis on va aller crescendo. Ça va être, ils font ça, donc il va avoir une réaction, et puis ça va être, chaque réaction va en appeler une autre, et on voit très bien à peu près à une demi-heure de la fin où ça va atterrir. Plus le film avance, moins on va aller de surprise en surprise, mais le film est quand même intéressant, puisque si vous aimez les films de vampires, c'est quand même un relookage assez intéressant. Bon, ne vous fiez pas à cette deadline, à cette je sais pas comment on dit
tagline.
Tagline, voilà, l'amour est éternel. Bon,
ouais, voilà, bon, ça fait une pub pour les deux beurs, hein, surtout qu'à gauche on dirait un diamant vu de loin. Donc.
Oui, alors j'ai vu aussi une bande annonce qui avait marqué dans la lignée de Twilight. Donc, ne vous fiez pas ça non plus.
Putain.
N'ayez pas peur, ce n'est pas dans la lignée de Twilight. Il n'y a pas de loup-garou, il n'y a pas de.
Alors, justement, dans ce cas-là, puisqu'on parle d'une adaptation française qui massacre l'œuvre, est-ce que tu as regardé, puisque tu as le DVD, donc tu as essayé la VF ou non? Est-ce que la VF est correcte? Les bonus, comment sont-ils?
Alors, je n'ai pas vu la VF, puisque évidemment, quand tu vois un film en DVD, c'est toi qui choisis. Les bonus, il y a un documentaire où c'est plutôt tout le monde est beau et tout le monde est gentil, mais tu vois quand même Park Chan-wook au travail et tu vois une interview assez intéressante de la chef de costumière et la chef décoratrice, où ils expliquent justement comment ils ont voulu aller dans le sobre mais pas trop, et comment sur certaines pièces ils sont allés vraiment à fond dans une certaine direction qu'ils n'auraient pas forcément prise à la base, mais c'était la volonté du réalisateur. Donc ils expliquent certains partis pris, certains choix graphiques dans les décors, etc. Ça dure, je pense, 20 minutes à peu près. Il y a aussi une interview du compositeur sur la création de la musique. C'est pas inintéressant, c'est pas forcément super intéressant non plus, mais ça évite quand même un peu la langue de bois. Ça va, les bonus se tiennent. Voilà, donc Thirst de Park Chan-wook qui a été présenté à Cannes. Il y a marqué d'ailleurs prix du jury à Cannes. Ils ont souligné, je pense, l'audace, enfin un petit peu la volonté de proposer une relecture originale du mythe du vampire. Voilà, donc c'est si vous avez aimé Oldboy, Oldboy est quand même 150 crans au-dessus. Mais voilà, ça, si vous voulez voilà, des petits films de vampires que vous n'avez pas l'habitude de voir et un traitement original par rapport à ça, si vous avez dans votre DVD Tech des Twilight, des Dracula, des trucs comme ça, bon voilà, ce film a honnêtement sa place dedans et quand même vaut le détour. Voilà, Thirst de Park Chan-wook.
Oh, il va y aller. Bon, alors c'est l'été, c'est les rediffs. Et qu'est-ce que l'on aura forcément à la télé comme film ?
Eh bien, des rediffs.
Oui, de quel genre de film ?
Oh, des films de boue. Ah, on l'appelle Trinita, Les Gendarmes de Saint-Tropez, la 5ème compagnie.
Ah, 7ème compagnie G. Eh oui, la télé est en vacances.
Oh oui.
Oh, oui. Oh le cri du cœur.
En tout cas, moi en ce moment je me régale avec le Tour de France. Franchement,
ouais,
c'est pas mal.
Ouais, c'est vrai. En plus, c'est vrai.
Et puis Cocorico, Vauclair, merci.
Alors des films, c'est léger, hein, c'est vraiment de la rediff, c'est
rediff qui pue, quoi.
Ouais, des thématiques un petit peu bizarres, enfin bon. On se demande, les programmateurs sont en vacances. Alors donc on laisse faire les stagiaires, on leur dit bon alors ça tu touches pas, cette pile tu touches pas. Là il y a tous ceux qu'on a diffusé les cinq dernières années, tu peux y aller.
Faudrait que je t'explique un jour.
Ouais.
Programmeur, programmateur. Programmateur c'est les machines à laver.
Ouais, bon.
Et programmeur c'est mon boulot.
Oh ça fait les programmes.
Et c'est mon boulot, soit sur l'ordinateur, soit effectivement dans le fond sonore. Mais
Non mais c'est vengeance dire. Pour avoir quand c'est sans manquer de lui pour l'oubli de la
pour Thirst. Alors donc on exploite le film en remake et on péplum cette semaine.
Oh pas mal.
Avec ce soir sur Canal Plus. Est-ce que tu l'as vu Universal Soldier Régénération.
Alors j'ai vu la bande-annonce et j'ai été déçu de ne pas avoir Canal.
JCVD, Dolph Lundgren ensemble.
17 ans après,
ouais, ils reviennent avec.
Et la coque est toujours aussi forte.
Je l'ai pas vu.
Ah peut-être pas. Un film de John Hyams. Alors je me demande, j'ai pas cherché vite si c'est pas le fiston de Peter.
Hein. Ah ça il faudra vérifier.
Il faudra vérifier ça. Le film est sorti il y a 2 ans.
Google.
Et
de quoi ? Attends, non, parce qu'il y a Solarus qui me dit c'est pas la musique de la 7ème compagnie, c'est la musique gendarme à Saint-Tropez.
Ah bravo.
La
code
culture.
Code erreur.
Oh là là. Ah bah non, mais franchement, tu vas m'assassiner à Vladimir Kosma qui, quand même, est toujours vivant. Hein.
Au moins, il y en a qui connaissent leur classique. Ça fait plaisir. Alors, donc, c'est ce soir, c'est sur Canal Plus à 20h45. Bon film du samedi soir, quoi. Sinon, il y a Sabata sur.
Ouais, t'es sûr.
Ouais, Lee Van Cleef. Alors, demain sur TF6, soirée Peplum. Avec.
Je remarque que du sport évite largement la programmation de Paris Première après 22h30. Là,
bah non, pourquoi ? Non, demain soir il y a Modern Family.
D'accord.
Qu'on n'avait pas vu sur une chaîne accessible aux différents réseaux numériques, que c'était programmé, je crois, sur Orange, me semble-t-il. Hein, ou un truc comme ça, mais là qui est rediffusé par Paris Première, qui nous propose l'épisode pilote demain, l'histoire de famille recomposée. Ed O'Neill en père de famille, ça vous dit quelque chose quand même, hein?
Getting married?
C'était marié deux enfants, quoi.
Oui, Getting married.
Bon, c'est.
Je l'ai dit.
Modern
Family. Non, mais je l'ai dit.
Je vous avais présenté cette série d'ailleurs lors de sa première diffusion.
Je te l'avais dit en VO.
Avec. La fillette pas possible qui fait chier, qui fait sa crise d'adolescence, avec le fiston qui est homo et qui va adopter une vietnamienne avec son compagnon, enfin bon, et famille recomposée en plus, hein, si tu veux, quoi, puisque bon, il y a les enfants des deux femmes, enfin bon, c'est un bordel pas fini, mais ça a l'air sympathique, donc c'est sur Paris Première demain soir. Sinon demain soir, donc sur TF6, c'est Peplum, avec du vrai, du pur, du tatoué, du estampillé, pur Peplum Rital.
Vas-y.
Tout d'abord, à 20h40, les Horaces et les Curias, avec conjointement réalisé par Francesco Baldi et Terence Young. En 1961, donc l'année suivante, il nous faisait... Facile.
Docteur No.
Docteur No, voilà, quand même. James Bond, Terence Young, quoi. Avec, quand même, là, il en a fait très peu des incursions dans le cinéma italien. Alan Ladd, les gars. Et oui,
mais qui...
la clé de verre. Alors, voyons, Alan Ladd, quoi.
Alan Ladd.
Non, mais tu parles d'un chroniqueur cinéma. Qu'est-ce que tu crois qu'il s'y connaît?
Le nain blanc du cinéma hollywoodien des années 40. Alan Ladd.
Souvenez-vous.
Qui était obligé de monter sur un petit truc et tout pour embrasser ses partenaires.
Ah, mais c'était celui qui faisait tous les rôles de gangsters dans les films de la Warner.
Pas que.
Ouais, mais c'était il était surtout en contrat à Warner.
Voilà, ouais.
Hein, et ça, sans regarder dans Wikipédia, juste pour foutre la honte à Thomas. Hein.
Ouais, c'est lui qui n'écrit pas dans positif.
Alors.
Ouais, mais c'est lui qui. c'était le jeune premier dans les années, début des années 40,
oui,
en
oui,
fait.
Oui.
Hein. Enfin, bon, ben, jeune premier, et puis très petit, quoi, quand même, de taille, quoi. Ouais. Mais bon, bon acteur, quand même, quoi. Et donc, Alan Ladd et Jacqueline Derval, donc, dans ses Horaces et Curiaces demain soir sur TF6, suivi de à 22h10, Spartacus et les 10 gladiateurs de Nick Nostro. Alors là, c'est déjà la fin du péplum, on est en 1964. Avec Alfredo Varelli et Ursula Davis, tu vois, même les noms anglais, il faut les dire avec l'accent italien,
oui, parce que de toute
voire
façon,
espagnol.
C'était des noms,
c'était des pseudos, voilà, vas-y. Et ça se termine à 23h30 par un des historiques, ça c'est un historique quand même, hein. C'est un des premiers péplums, 1959, je crois que c'est le premier de Vittorio Cotafavi. Me semble que c'est son premier ou son deuxième, avec George Marshall, l'énorme George Marshall quand même, et Linda Cristal.
Non, Marché, il manquait un S à la fin.
Non, George Marshall.
Ah, pardon.
Voyons, un grand acteur du cinéma français quand même, George Marshall, qui a joué même dans Fellini, dans les Fellini, enfin bon,
oui,
mais pas que, hein, vraiment quoi. Lundi sur Orange Ciné Novo, un inédit à la télé Mike Lallner, très récent, 2011, cette année. Le retour, c'est un retour d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit on exploite le film en remake. C'est Pee-wee Herman on Broadway, avec bien sûr Paul Rubens dans le rôle titre, et Phil Lamar.
Faut dire que l'acteur qui jouait Pee-wee a eu une longue période noire parce qu'il avait été accusé de pédophilie et tout ça.
C'est pas exactement ça.
Mais ça a été très très. Enfin, c'est vrai que c'est une franchise qui revient en ce moment.
Non, mais il s'est fait gauler dans un cinéma où il y avait que des gosses qui regardaient un truc d'enfant et puis il était en train de se masturber. Donc voilà quelle est l'histoire. Et bon, bah ok, les studios l'ont viré Manu Militari, bien sûr. Il a fait un retour, mais comme ça, par la bande, dans certaines séries. On le voit dans la saison 2 de The Shield, où il joue vraiment un rôle excellent. Par la suite, on l'a également vu dans un épisode ou deux de Miami, CSI Miami ou CSI Las Vegas. Et il a fait quelques petites caméos comme ça, hein, son vrai nom, Paul Rubens. Et là, bon, ok, il a de nouveau le vent en poupe.
C'est
un bon acteur.
Voir, il a repris son personnage de Pee-wee parce que ça faisait quand même depuis 5-6 ans qu'on le voyait dans les talk shows du soir aux États-Unis. Donc, il le retravaillait derrière. Je crois même qu'il a participé plusieurs fois au Saturday Night Live. Donc,
certainement. Et après, donc, cet inédit Pee-wee Herman on Broadway sur Orange Ciné Novo lundi à 20h40, eh bien, pour revisiter un petit peu le truc, on nous propose eh bien, le premier, hein, les aventures de Pee-wee de Tim Burton en 85 à 22h15. Donc, histoire de se rappeler un petit peu, quoi. Et le délire de Pee-wee et le délire à l'époque du cinéaste estampillé Walt Disney, qui était Tim Burton, bien sûr. Mardi sur TF6, on remet ça, repéplum, avec un spécial Hercule. Tout d'abord, à 20h40, Hercule se déchaîne, de Gianfranco Parolini en 61, là, avec Will Reeves, Irina Prozen, et dans le rôle, alors là, il faut le voir, parce que ça, c'est quand même un des monuments, quand même, Serge Gainsbourg en péplum romain, en uniforme romain, tu vois, de soldat romain, là, il faut le voir, quand même, quoi, en 1961, Gainsbourg, qui n'était pas encore un auteur vraiment très très connu, au niveau de la musique, et qui justement devait faire des petites caméos pour gagner son pognon, devait faire des, donc il faisait tout et n'importe quoi, hein. Après on l'a vu également dans quelques western spaghetti de toute façon, hein, au niveau carrière cinématographique, et là vraiment il faut le voir, c'est pas mal, c'est sympa avec sa petite tronche et tout, bien genou. Hercule se déchaîne donc sur TF6, c'est mardi prochain à 20h40, suivi de à 22h15 Hercule à la conquête de l'Atlantide, deux encore, Vittorio Cotafavi, là, c'est en 1961. Et là, c'est le Hercule interprété par Reg Park, avec également Faye Spain. Et à 0h05, Hercule et la reine de Lydie. Et celui-là, il est pas mal, parce que bon, c'est le Hercule interprété par Steve Reeves, donc,
celui qui a fait le plus de Hercule, quoi, de toute façon, hein, le culturiste, là, ouais. Ex-Monsieur Univers, Monsieur Monde, bon, il est pas mal, franchement, quoi, de Pietro Francini. Et là, c'est également un des historiques, on va dire, c'est sorti en 1959, donc avec Steve Reeves et Sylvia Lopez. Mercredi, il faut quand même un petit peu de bouse, de bouse sympathique qui nous fait plaisir, parce que c'est génial. De temps en temps, ils le rediffusent. C'est bien entendu RTL9 à 22h30, American Ninja 4, Force de frappe de Cédric Sundström avec Michael Dudikoff, David Bradley. Ah ouais, mais attends,
Non, mais The Off, en ce moment, il revient très à la mode. Il est très surprenant dans ce qu'il fait. Il est dans une pleine période d'autodérision lui-même, comme la TJCBD et tout ça.
Non, mais c'est énorme parce que Xavier, ça fait deux fois qu'il confond avec David Hasselhoff.
Mais sinon, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout.
c'est bien, c'est récurrent, on va croire que c'est pas exprès.
Et puis, mine de rien, faut quand même le faire et tout, quoi. Faire du karaté, des coups de pied chassés et tout, quoi, en jean Mulburn, tu vois. Je dis, même Chuck Norris n'a pas des jeans autant Mulburn que ça. Alors donc, rien que pour ça, regardez ce film, c'est quand même pas mal, c'est sympa et tout, quoi.
Tu veux dire qu'il y a une blague de il y a un Chuck Norris que Chuck Norris ne peut pas?
Ah bah écoute, c'est Michael Dudikoff, ça, il n'y a pas de problème. Jeudi sur Ciné Plus Premier, alors celui-là je vous l'avais déjà programmé, mais moi il m'a fait pisser dessus de rire, c'est vraiment le film potache américain par excellence, c'est dans la veine des films de John Hughes dans les années 80. Eh mec, elle est où ma caisse? Trop cool. La caisse, c'est une R5, bien sûr, c'est la caisse d'Ashton Kutcher avec Sean William Scott et la ravissante plastique de Jennifer Garner. Donc là, vous en avez vraiment pour votre argent avec ce film, il n'y a pas de problème, vous passez une excellente soirée. Vendredi sur RTL9, après les Ninja Kids, après les trois ninjas contre-attaque en 1995, les trois ninjas se révoltent. Avec toujours dans le rôle d'un des trois ninjas, Mark Elliott Slade. Alors dans les trois ninjas se révoltent, il y a Michael Trainor et Chad Power qui remplacent au fait Sean Fox et Aaron Bonifant qui sont dans le précédent, à savoir dans les trois ninjas contre-attaque. Mais il y a toujours leur mentor, Victor Wong. Alors là, bon, bien sûr, celui-là on le connaît, il y a pas de problème. Quand on a besoin d'un chinois et tout, quoi, d'un mec asiatique et tout dans le cinéma à Hollywood, on le prend lui,
Même pour le japonais. Okay.
C'est un A-list, japonais bridé, quoi. Pas de problème. Et dans le rôle du méchant, pour ce coup-là, c'est Charles Napier, donc c'est pareil. Quand on veut une gueule de méchant, un mec, généralement, il joue le rôle de shérif, casse-couille, chiant et tout, réactionnaire, à fond les manettes. Il a la tronche pour, donc, et ça vaut le coup, parce qu'en plus, il est bon acteur, donc c'est pas mal. C'est sur RTL9, vendredi prochain, à 20h35, les trois ninjas se révoltent. Et en plus, vous pouvez regarder en famille, vos enfants peuvent le regarder, il n'y a aucun problème, C'est bon, il y a des combats, des machins, des trucs pas possibles et tout, mais c'est sur un mode humoristique et tout, c'est fun et tout. Même si les méchants veulent être vraiment très méchants et puis on va faire couler le sang et tout. Bon c'est complètement désamorcé à chaque fois, c'est vraiment nickel. C'est pour tout âge, il y a pas de problème, ça se regarde en famille. Et on termine comme on a commencé mon gars avec un remake. Oui. Le premier, c'était un remake du remake de l'original et là c'est le remake. Tu vois, Ciné Frisson, Universal Soldier, le combat absolu de Mick Rogers, la version 99.
Ça, c'est le 2, ça.
Ça, c'est le 2, oui.
D'accord.
Avec seulement le JCVD et Michael J. White.
Ouais, mais il nous a déconfié que c'était une merde.
Ah, oui, mais ça, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. C'est sur Ciné Frisson, vendredi prochain, à partir de 21h. Ça vous fait une bonne semaine de bouffe.
Ça, c'est pas mal.
Il n'y a pas de problème.
C'est une bonne programmation d'été.
Et pour vous servir.
Tu sais, Thomas, tu sais qu'il y en a qui nous écoutent sur la FM, il y en a qui nous écoutent sur le stream, voire il y en a qui écoutent le podcast en diagonale. Est-ce que l'on a un moyen de leur dire, retéléchargez le MP3, de le réécouter depuis le début ?
Mais tout à fait, si vous avez manqué le début, vous avez manqué de la Belgique en BD, du sport de plage, de la boucherie insulaire, du bizarre et de la masturbation, des cartes téléphoniques, des prémices d'un jingle Alzheimer, du thirst à tous les étages, la Cité Compagnie contre le gendarme de Saint-Tropez, des rediffusions qui puent, de la thématique bizarre, un nain qui montait sur un petit truc, Gainsbourg torse-poil avec sa petite tronche, du karaté en Jim Mulburn, la screech entre Dudikoff et Asseloff ne sait toujours pas que choisir, et des programmeurs de l'été pour vous servir.
Nom d'un soleil, vous aurez manqué tout ça. Heureusement, grâce à Thierry, vous pourrez écouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les chroniques écrites. Fouillez dans nos archives, retrouvez par exemple la chronique de Mauro Caldi pour Mine Miglia, Brick, section 7, Ciao Who, Tout va mal et Un monde en double, recommandé par du sport, 90 autres livres cultes à usage et personnes pressées, et même un lien vers le pilote de Wonder Woman dont la série a été annulée par NBC avant même d'être tournée, on se demande pourquoi. Et pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.fr, supplémentweekend.fr sans accent ni tiré. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en continu et en alternance avec Booster FM, avec du copier-coller en plein milieu de mon texte, c'est la troisième fois, bravo. Et quoi, c'est sauver la Belgique en plein milieu. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, on ne sauvera plus la Belgique, voilà.
Dans le prochain épisode,
il y aura du Mauro Caldi, avec d'ailleurs même un erratum vis-à-vis de l'émission du 2 juillet dernier.
Et il y aura aussi un film de sabre moyen-âge chinois vu à travers les yeux d'une femme.
Ah, ça veut dire que tu lui as montré Histoire de fantôme chinois ?
Non, à travers les yeux d'une femme, c'est un personnage du film.
Ah bon, pardon.
Et il y aura également du polar qui se passe à Hong Kong.
Ah ah. Bon d'accord, ok, je prépare le jingle spécial. Oh. Ciao, bye bye, merci à tous de votre écoute. De suite, c'est du sport qui met sur le petit braquet dans le super, pour la partie sportive. Et après, n'oubliez pas la partie musicale. Hein ? Oui, non, mais je disais petit braquet parce que voilà, quoi, ça y va sauf dans la prog et tout le reste. Ciao, merci à tous de me suivre. Et non, on peut pas forcément lire sur Twitter en même temps.